On me dit que j'ai 45 minutes. En fait, c'est pas vrai. J'ai donné beaucoup de conférences et je sais qu'à 15h15, en fait, je n'ai droit qu'à 2 minutes. Les fameux 2 minutes où je vais vous perdre parce que c'est l'heure de la sieste. Je le sais, je le sais, je le sais. Donc, en deux minutes, je voudrais juste vous dire 3 choses. 1, on va tous mourir. 2, la vie est belle. 3, Dieu nous attend. Ça va ? Voilà, maintenant vous pouvez. Maintenant, les 2 minutes sont passées, vous pouvez faire la sieste ou si vous voulez, je développe. Merci, merci à vous d'être là. Vous savez, être au top, être en pleine forme, c'est une question cruciale, évidemment, qu'on se pose tous. Et d'ailleurs, dans le monde, tout s'organise autour de ça. Il faut être performant, on vous le dit en entreprise, on vous le dit dans ce monde. Il faut parfois même, d'ailleurs, on vous dit qu'il faut réussir, et ceux et celles d'entre vous qui ont un travail, qui ne sont pas encore retraités, le savent. Si vous ne faites pas votre chiffre, hein, le fameux résultat à la fin du mois, votre patron se charge bien de vous le faire remarquer. Voilà. Donc on essaye de réussir, on essaye d'être performant. Et il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais alors pas du tout, c'est la santé. Et j'en ai fait moi-même l'expérience il y a 2 ans maintenant. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop, parce qu'en gros, ça marche quand même, en gros, quand on est jeune. Et puis, quand on vieillit, on sait bien que ça marche de moins en moins bien. Ma grand-mère, qui a 108 ans, on peut l'applaudir. Ma grand-mère, qui a 108 ans, me dit, tu sais, si tu te lèves le matin et que tu as mal nulle part, c'est que tu es mort. Elle n'a pas tort, elle n'a pas tort, elle n'a pas tort. Mais en gros... Moi, pendant 40 ans, tout a bien marché. Et en gros, d'ailleurs, pendant 40 ans, en général, ça ne va pas trop mal, en général. Quoique, d'ailleurs, si je faisais parmi vous un petit sondage, je m'apercevrais que l'un ou l'autre se bat contre telle ou telle pathologie, doit prendre un traitement à vie, ou alors se bat aussi contre un état psychologique qui le rend plus fragile. Voilà. Certainement, vous expérimentez tous, je ne suis pas le spécialiste de ça, une difficulté ou une faiblesse, peut-être même une maladie. J'ai croisé il y a 2 jours un prêtre qui se fait une piqûre d'insuline tous les jours parce qu'il est diabétique. Voilà. Si vous voulez un monde où il n'y a pas de soucis, pas de maladies, que des gentils, eh bien, il faut habiter Disneyland. Voilà, hein. Parce qu'en vrai, eh bien, dans ce monde, il y a des maladies et je vois bien que vous avez tous un masque, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on sait bien que ce monde est difficile. Et puis soudain, lorsque le drame arrive, lorsque l'épreuve arrive, l'épreuve de santé, plein de questions vous viennent au fond du cœur. Ces questions, je les ai eues. C'est pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Pourquoi moi ? Et puis, si vous êtes croyant, fatalement, vous avez cette question, pourquoi Dieu permet ça ? Pourquoi Dieu permet l'épreuve ? J'ai enterré... il y a 15 jours, maintenant, 3 semaines, une jeune fille de 19 ans, un cancer. Vous savez, on a beau être croyant, on a beau être prêtre, 19 ans, on se dit, mais Seigneur, pourquoi t'as permis ça, quoi ? Puis elle expliquait ça aux parents. Hein. Voilà, en tout cas, le drame, l'épreuve de santé, la souffrance en général, vous ramène inévitablement à votre manque de productivité, votre manque de performance, celle dont je parlais au début. Votre fragilité, on se demande subitement à quoi on sert. Moi, j'ai dû m'arrêter du jour au lendemain. Pendant 2 mois, je n'ai pas dit la messe. Je me suis retrouvé prêtre pour personne. Ça a été très dur de me dire, mais tu ne sers à rien en fait. Tu es là au fond de ton lit avec des tuyaux partout et puis tu regardes la messe à la télé. Dur. Et l'accident ou la maladie, ça ne passe pas que chez les autres. Ça ne passe pas que chez les autres. Lorsque tout cela survient, on se pose des questions nouvelles, des questions qu'on ne s'était jamais posées, qui portent sur, et c'est bien normal, sur l'essence de la vie. Sur l'essence de la vie. Alors je vais essayer d'aborder tout ça avec vous, dans les fameux 3 quarts d'heure qui me sont donnés. Je sais qu'après il y aura des questions, alors il paraît que le micro ne doit pas passer de main en main. J'essaierai, si vous voulez bien, que vous posiez vos questions en vous levant, et puis je les reformulerai au micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous demander 2 choses. Une immense compréhension, un peu de pudeur même finalement, parce que vous savez, comment dire ça ? La souffrance, ben, il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui la vivent. Ce n'est pas tout à fait pareil. Puis la souffrance, c'est très subjectif. Je me souviens, à l'hôpital, on pose la question souvent, ceux d'entre vous qui connaissent ça, ou qui sont infirmiers, ou soignants, ou médecins, infirmières, aides-soignantes, savent souvent, on pose la question aux malades, vous avez mal à combien entre 0 et 10? Alors moi, au début, je disais 12, évidemment. Et en fait, il ne faut pas trop rire avec ça, parce que il n'y a pas d'étalon dans la souffrance. C'est très subjectif, il y en a qui ont un peu mal très vite. Moi, je ne supporte pas les piqûres, par exemple. Mais quand on fait une prise de sang, ah, j'ai mal. Il y en a, bah, ça ne leur fait rien, regarde même l'aiguille qui leur perce le bras. Moi, je ne supporte pas ça. C'est compliqué. Il n'y a pas d'étalon, il n'y a pas de souffrance au maître. Vous voyez, ça n'existe pas. Pardon pour le mot, mais vous comprenez. Et puis, c'est pas simple parce qu'on a peur, quand on parle de la souffrance, de ne pas trouver les mots, d'être un peu court. On sent qu'on risque d'être maladroit. Et c'est un peu sur la pointe des pieds que je m'avance vers vous cet après-midi en me disant... Oui, évidemment, ce passé récent, dont je me remets peu à peu, vous voyez, ça va mieux, hein, sinon je ne serais pas là avec vous. Hein, ça va bien grâce à la médecine et à la prière et à Notre-Dame de Lourdes. Mais je me dis, voilà, attention. On raconte cette histoire, vous savez, d'une paroissienne un peu âgée, un peu sage, un peu avec beaucoup d'expérience, qui avait entendu parler à un jeune prêtre de la souffrance au cours d'une homélie, certainement un vendredi saint. Il avait parlé de Jésus sur la croix, qui souffre pour les hommes, c'est très beau, machin, etc. Elle avait écouté et puis... Elle était sortie de l'homélie sur le parvis et elle dit « Oh, le jeune prêtre, là, le jeune abbé, il a bien parlé de la souffrance, mais on voit qu'il n'a jamais souffert. » C'est dur, hein ? C'est dur. Donc je m'avance avec, de votre part, une grande demande de compréhension et puis, de notre part à tous, une demande de respect. Il y a parmi nous certainement des gens qui souffrent, des gens qui peinent, des gens qui ne sont pas sortis d'affaires, des gens... qui peut-être porteront durablement des séquelles de telle ou telle maladie. Donc voilà, je ne suis pas, pas devant vous un spécialiste de la souffrance, le seul spécialiste, c'est Dieu. Hein. Je crois que lui sait de quoi il parle, Jésus sur la croix. Moi, je vous dis juste un petit peu ce que j'ai vécu et puis et ce que ça a changé en moi. Donc, je voudrais vous partager deux choses qui ne sont pas écrites dans le livre. Sœur Anne-Claire l'a dit très gentiment. J'ai expliqué dans un livre qui s'appelle « Hors service ». Je vous en parle, ça, mon éditeur sera très content. Mais je vous dis surtout que ce livre, les droits d'auteur sont reversés à une association dont je fais partie qui s'appelle Padre Blog, qui est un site de prêtres qui veut évangéliser, témoigner de la foi et surtout de l'espérance chrétienne sur Internet. Donc voilà, je me sens très libre pour vous en parler. Alors, ce que ne dit pas le livre et que je voudrais partager avec vous, je voudrais vous dire... Ça va vous surprendre, mais je vais vous parler de la mort d'abord, parce que j'y ai pensé, évidemment, puis on ne va pas cacher que ça faisait partie un petit peu des perspectives à court terme qui me concernaient. Je vais surtout vous dire que la vie est belle, hein, évidemment, mais je vais vous parler de la mort. Puis la deuxième, je vais vous parler évidemment de la fragilité, de la dépendance, et peut-être même, sûrement, faire un peu son éloge devant vous cet après-midi. Alors, parlons de la mort. Ça jette un froid, là. Hein. Mon témoignage, c'est un appel et une vigilance, mes amis. La vie est belle. Évidemment que la vie est belle. Mais elle va finir. C'est inéluctable. Et c'est certainement, l'une des grandes leçons de cette période si atypique, si singulière, si évolutive, si un peu angoissante de nous... que nous vivons en ce moment avec cette histoire de masse, de confinement, de précautions sanitaires. On a subitement intégré que la mort faisait partie de notre vie. Il était temps. On entend ici et là, parfois, cette remarque, « Ah, quelle chance, un tel, il est mort, il ne s'est pas vu mourir. Il est mort dans son sommeil, il est mort. Ah, c'est trop bien. » Mais moi, je vais vous surprendre, je n'ai pas envie de mourir comme ça. Mais alors, pas du tout. J'ai envie de me voir mourir. Complètement. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie d'être surpris, justement. J'ai pas envie d'être pris au dépourvu par la mort. Il fut un temps où on disait des litanies de la bonne mort. Ça. Et dans les invocations, il y avait marqué « De la mort subite et imprévue, délivre-moi, Seigneur ». J'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'aller à New York au musée des attentats du 11 septembre. Vous savez, les avions là qui sont écrasés. Et les gens m'ont dit « Mais c'est horrible, ils se sont vus mourir ». J'espère bien, oui. Et à bord de l'avion, ils ont eu le temps pendant quelques minutes, c'est vrai, c'est court, mais enfin quelques minutes de se dire, oui, c'est la fin du voyage. D'ailleurs, c'est très très beau dans ce musée. Ah, je fais déjà une digression avant de gronder encore parce que j'ai dépassé le temps. Moi, je vais faire attention. Dans le musée, il y a une salle où on voit on entend sur des haut-parleurs les appels téléphoniques des gens dans les avions qui appellent leurs proches. C'est très, très beau. Ils n'ont que 2 minutes à peine pour appeler, parce que les avions sont très bas, donc le réseau passe. Et les appels sont poignants. Et tous, mes amis, tous, les voyageurs là, à bord des avions, ils appellent leurs proches et ils leur disent tous une seule phrase. « I love you, je t'aime. » Ils leur disent pas, tu sais, il y a un poulet au four, n'oublie pas de machin. Non, 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 c'est la fin de la vie. On dit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? Je t'aime. Ils se sont vus mourir, ils ont eu le temps. Et ça, c'est très précieux. C'est pour ça que je veux me voir mourir, moi. Je veux me voir mourir parce que je veux avoir le temps d'échanger des pardons, d'échanger des je t'aime, de dire des merci. Ceux d'entre vous qui ont peut-être enterré un proche savent combien c'est précieux quand c'est possible, évidemment. Quand quelqu'un s'en va peu à peu, progressivement. Les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines sont des grands moments d'éternité où on peut dire des choses en vérité, où tout l'accessoire, où tout le secondaire disparaît. Évidemment, on redit l'essentiel, combien on est proche l'un l'autre, combien on se doit l'un l'autre. Parfois, il y a des pardons et des merci qui sont échangés, c'est très beau. Et combien, à l'inverse, un accident brutal, lorsqu'on perd un être aimé d'un accident, combien on se sent profondément orphelin de ne pas avoir pu justement dire « Je t'aime ». Je me souviens de cette fille qui est morte un matin d'un accident de voiture. Ses parents, sa mère me dit en larmes, « Et vous rendez compte, le matin, je l'ai engueulée parce qu'elle avait une jupe trop courte. » Elle avait sûrement raison de l'agrandir parce qu'elle n'était pas habillée de façon convenable. Mais rendez compte, la dernière phrase, c'est ce que me dit sa mère, rendez compte, le dernier mot que je lui ai dit, c'est « Ma chérie, ça va pas, quoi. T'es pas bien habillée, quoi. » Et elle en était meurtrie, et toute sa vie, elle portera ça. Vous voyez, je veux me voir mourir. J'espère que vous aussi. La grande sagesse chrétienne, ça a toujours été cette phrase en latin, « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Puis vous souvenez-vous de cette phrase de l'Évangile, « C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez et priez !» Évidemment. Je veux me préparer à ce moment. Alors j'ai eu la chance de m'y préparer à l'hôpital il y a 2 ans, lorsque le médecin ne m'a pas caché que c'était assez grave. Alors le but, ce n'est pas de vous dire, et encore moins par la caméra, mon dossier médical, hein, j'avoue. Hein, voilà, sachez juste qu'il y avait une petite tumeur qui poussait là et qui prenait un peu trop de place. Et voilà, et on l'a enlevée, et on a enlevé tout ce qu'elle touchait aussi. Ce qui fait que, voilà, ici, là, j'ai pas mal de reliques qui sont déjà prêtes. Là, maintenant, il n'y a plus que la sainteté à régler. Mais on m'a enlevé plein de choses. Ça complique un peu la donne aujourd'hui, mais on s'en sort quand même. Et alors, ça, par contre, je vais vous le dire, c'est très drôle. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi nous. Je vous en supplie, mes amis, si vous êtes médecins, dites-le franchement à vos malades que ça ne va pas. Moi, mon médecin, je lui ai dit, mais docteur, je vais mourir ou pas? Et là, il m'a dit une phrase, même encore aujourd'hui, je me demande ce que ça voulait dire. Il m'a dit, monsieur Amar, rien ne nous empêche de dire le contraire. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors, rassurez-vous, j'ai très vite compris que c'était grave parce que j'ai eu plein de visiteurs, notamment mon évêque, que j'ai vu beaucoup plus en 2 mois d'hôpital qu'en 18 ans de sacerdoce. Donc là, je me suis dit, ah oui, c'est grave. Il est venu toutes les semaines. J'ai vu mes parents, j'ai vu mes frères et sœurs, j'ai y compris mon frère qui a fait 6 heures de route pour venir me voir à l'hôpital alors qu'il était en plein travail. J'ai eu des amis que je n'avais pas eu depuis des mois, des années, certains venir me voir. J'ai un ami moine qui a quitté son monastère pour venir me voir avec la permission du père abbé. Je me suis dit, ah oui, alors là, vraiment, c'est grave. C'est un bon baromètre. Mais je regrette un peu que le médecin ne m'ait pas dit explicitement « Oui, oui, si, si, bien sûr, oui. On va tout faire pour que vous viviez. » Il l'a fait, mais oui, oui, c'est grave. Il y a quelques années, j'ai été aumônier d'une école de gendarmerie. Vous savez, les gendarmes, ils sont confrontés à la mort, hein, beaucoup. Hein. Souvent, lorsqu'il faut annoncer à une maman, à un papa, que son fils a eu un accident de scooter ou que son enfant a eu quelque chose de grave, voire même est mort, c'est les gendarmes qui préviennent. C'est dur, hein. Et dans le cadre de cette école de gendarmes, j'avais été habilité par le colonel à faire un cours sur la mort. Vous vous rendez compte ? Et j'ai été impressionné de voir combien ce cours rejoignait ces gendarmes, qui sont des hommes et des femmes enfin, beaucoup plus jeunes, mais de notre époque. Combien ils étaient étonnés et participant à son cours, qui leur disait que des banalités. Je leur disais, la mort, il y en a deux, la mort naturelle et la mort accidentelle, on va tous mourir. Mais je leur disais vraiment que des choses assez classiques, mais j'étais assez étonné. Et surtout, j'étais étonné qu'aucun n'avait envisagé qu'il allait un jour mourir. Parce que tout le monde va mourir ici, mes amis. Hein. Quand je fais des retraites pour jeunes, de lycéens en général, je leur dis, mes amis, voilà, la retraite est terminée, on ne se reverra peut-être plus. J'aimerais juste savoir ce que vous deviendrez dans 10 ans, Ben dans 10 ans, je vais vous dire, il y en a d'entre nous qui seront mariés, d'autres célibataires, d'autres prêtres, religieux, religieuses, puis il y en a qui seront morts. Et là, ça jette un froid. Le problème, mes amis, c'est que ça fait 18 ans que je suis prêtre. Donc ça fait 18 ans que je dis à chaque retraite, dans 10 ans, il y en a qui seront morts. Ben, c'est déjà arrivé. Évidemment. Mais ça jette encore plus un froid maintenant quand je le dis aux retraites. Nous allons tous mourir un jour. Et pourtant, on a tout fait pour oublier la mort. Autrefois, la mort faisait partie de la vie. On mourait à la maison. J'ai un ami prêtre missionnaire là, au Bénin, qui quelques jours chez nous là, au presbytère, qui me dit « c'est très beau, au Bénin, on veille les morts ». Parce qu'en fait, on vit par générations successives dans la maison. Il y a les trois générations qui sont là, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Et tout le monde habite ensemble. Et quand le grand-père meurt, ben, il meurt à l'étage au-dessus. Et on le veille. Et plusieurs jours, il est là. Et on prie. C'est fini maintenant. On meurt à l'hôpital. Hein. N'allez pas dans un hôpital. C'est là où on meurt le plus. Hein. On cache la mort. D'ailleurs, il y a des maisons de retraite, les fameuses EHPAD. On voit bien que c'est surtout là, au fait, que les gens meurent. On ne meurt plus chez soi. La mort apparaît soit lointaine, EHPAD, hôpital, soit même irréelle. Au cinéma, vous savez, avec les grands violons, les trompettes. Moi, j'ai beaucoup aimé, vous avez peut-être dû voir ce film, Le Seigneur des Anneaux. Au début, il y a le roi qui meurt, là, il a une flèche dans le cœur. Il met un quart d'heure pour mourir, le gars. Il y a la musique, la flèche dans le cœur, et il donne tout son programme politique. Enfin, ça ne se passe pas en vrai comme ça, hein, je peux vous le dire. Hein. Quand tu as une flèche dans le cœur, on ne parle pas pendant un quart d'heure. Donc, on nous a caché la mort, et c'est bien dommage, et c'est bien dommage. Je ne vous détaillerai pas aujourd'hui le message judéo-chrétien sur la mort, vous le connaissez, nous sommes en pèlerinage, nous savons nous que la mort n'est pas la fin de tout, qu'il y a, que c'est une marche, une porte, comme dit souvent la mystique chrétienne, une porte vers l'au-delà. Et je vais peut-être vous étonner aussi, mais j'aimerais bien qu'on se pose la question ensemble. En fait, j'ai peur de mourir, mais je n'ai pas peur de la mort, j'explique. J'ai peur de mourir parce que j'ai peur de souffrir. Il y a une maladie qui s'appelle le masochisme. C'est celui qui aime souffrir. Mais moi, je n'aime pas souffrir, je ne suis pas malade. Donc, je ne veux pas mourir. Mais je n'ai pas peur de la mort, parce que ma foi chrétienne, mon espérance chrétienne me dit qu'il y a quelque chose après. Je connais la suite de l'histoire. C'est pour ça que j'en ai voulu un peu au médecin, de ne pas m'avoir dit très vite que c'était peut-être la fin du voyage. Voilà, en même temps, même si... Et d'autant plus depuis 2 ans maintenant que j'ai bien compris que ça faisait partie de la vie, je voudrais vous dire évidemment que la vie est belle, évidemment. Bien sûr qu'il faut cueillir la vie, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ça, c'est vraiment un grand secret de vie. Quand on a, pardon de vous le dire, ça fait drôle de vous dire ça, moi, qui juste cette petite expérience récente, cette grosse expérience récente. Même, vous voyez, cette histoire de confinement, de Covid, de virus, évidemment, qu'il faut être prudent, qu'il faut faire attention. Je me suis permis d'enlever mon masque parce que je suis loin de vous, mais moi, je vois la vie un peu différemment maintenant. Et chaque matin que Dieu me donne, je me dis, ben, allez, je vais vivre comme si c'était le dernier. Parce que ça a été le cas un peu à l'hôpital. Je suis resté 8 jours en réanimation. Ah, je voyais bien que oui, chaque jour, c'était tangent, je le sentais bien. Puis je voyais bien aussi aux réactions de mes amis, de mes confrères, de mon évêque, je voyais bien que tout le monde était inquiet. Je ne pouvais pas trop parler, j'avais des tubes partout, mais je sentais bien. Et donc chaque matin, j'essaye de vivre ma vie en intendant, pas en propriétaire. Il y a un très beau livre que je vous recommande d'un ami prêtre, qui s'appelle l'abbé Grosjean, qui a écrit ça. Un livre où il explique un peu ça, donner sa vie. Où il donne ce petit conseil de vie que je vous donne à vous aussi. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Dans une sacristie d'une paroisse du diocèse, de mon diocèse de Versailles, il y a un petit écriteau au-dessus de la porte de la sacristie, il y a marqué « Célébrez votre messe », enfin « prêtre de passage », « Célébrez votre messe comme si c'était la première, la dernière, la seule de votre vie ». Mais c'est très beau. C'est vrai que si c'était la dernière messe, ben on la célébrerait peut-être mieux. Mais si c'était votre dernier jour, mes amis, allez, faisons l'exercice. Allez, voilà. Parce que d'ailleurs, si ça tombe, c'est peut-être vrai, hein. Non, mais ça vous fait peur, là. Je suis désolé, mes amis, mais vous pouvez sortir ici de l'église, là, et puis vous prendre un parpaing sur la tête, ou une tuile, ou un arbre, j'en sais rien, moi, ou faire une embolie, ou un choc cardiaque, et puis mourir. Ça peut arriver, ça. Eh bien, mes amis, si vous le saviez, je suis sûr Je dis vous, mais nous, on ne vivrait pas cette journée de la même façon. On appellerait telle ou telle personne, en lui disant qu'on l'aime, comme les fameux gens du 11 septembre. On ferait une petite prière à la grotte. On irait peut-être se confesser. Et peut-être aussi que, ben, on dirait un peu plus bonjour à... Allez, attendez, on va faire ça. Dites bonjour à votre voisin, vous ne savez pas qui c'est. Dites-le, voilà, peut-être que vous ne le reverrez jamais. Voyez ? Voilà. C'est vraiment le secret. Vivre chaque jour à fond, comme si c'était le premier et le dernier. Réjouissons-nous. Je connais une jeune fille qui, tous les matins, sous sa douche, j'y suis pas, hein, c'est elle qui me l'a dit, hein, elle me dit, elle chante cette chanson. « Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. » C'est beau. Allez, maintenant je voudrais entrer dans le vif du sujet en vous parlant de la fragilité, de cette épreuve, on est dans les temps, cette épreuve subite, imprévue, encore un peu prégnante dans ma vie de la fragilité. Dieu, mes amis, Dieu aime la fragilité. Attention, j'ai pas dit la paresse, j'ai pas dit la flemme, j'ai pas dit le découragement ou la lassitude, j'ai dit la fragilité, c'est-à-dire la limite choisie, non choisie, pardon, la limite subie. Le problème, c'est que la faiblesse, c'est la perte de contrôle. Personne n'aime ça, ne pas contrôler. Mais moi, je pense que Dieu aime la fragilité et la faiblesse. Je n'ai pas dit non plus Dieu aime la souffrance. Hein. Attention. Vous savez que c'est une des raisons pour laquelle on a modifié la parole du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation. Parce qu'on sentait bien que... Alors, le problème, c'est que la traduction du grec est un peu complexe, mais la nouvelle traduction, elle est meilleure, je trouve. Pour comprendre ça, mes amis, alors c'est la partie la plus subtile de l'exposé. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Mais je vais vous expliquer ça tranquillement. Dieu, c'est qui ? C'est le Tout-Puissant. Il a tout. Il est tout. Et nous ? Ben nous, on n'est pas grand-chose, mes amis. Mais alors, vraiment pas grand-chose. Et Dieu serait même en droit de nous dire à chacun, chacune d'entre nous, mais t'es qui, toi ? Vous savez, du haut du ciel, là, le Seigneur, là, il regarde les petits humains là, comme des fourmis, il dit, pouh, qui sont petits. Et il a raison. Petit homme, petite femme, de rien du tout. Et Dieu n'a pas besoin de nous. Enfin, Dieu, il a besoin de rien. Hein. Et pourtant, mes amis, si on réfléchit, Dieu qui est tout, qui a tout, il y a une chose qui lui manque, une seule, c'est la fragilité. Ah ben oui, normal, la faiblesse, le manque. Quand on a tout, quand on est tout, on a juste envie d'une chose, c'est de connaître le manque pour venir le combler, de connaître la fragilité pour y mettre sa force, de connaître le vide pour le combler, voyez, de sa plénitude. Donc Dieu aime la faiblesse. Il n'a qu'une envie, c'est de dévaler dans les failles, dans les faiblesses, dans les trous, de se pencher vers la misère pour la remplir de sa présence amoureuse. Vous voyez, pour faire éclater sa gloire. Et ça, c'est très, très beau. Vous allez me dire, ouais, c'est beau ce que vous dites, mais est-ce que vous en avez la preuve ? Pas de problème, mes amis, pas de problème. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible combien certains, mais la plupart des héros bibliques, ils ont souvent un handicap. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Par exemple, saviez-vous, mes amis, que Abraham était stérile ? Oui, parce qu'on dit toujours, les femmes sont stériles. En fait, on n'en sait pas trop. Hein. Parfois, c'est les hommes. Hein. C'est plus facile de mettre ça du côté des femmes. Hein. Abraham, il est stérile. Isaac, il est aveugle. Il est un peu manipulé par sa femme. Bon, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Bon, pardon. Jacob, il vit dans les jupes de sa mère et il boite. Moïse, je l'adore. Moïse, mes amis, Moïse, porte-parole de Dieu. Moïse, celui qui est chargé, vous vous souvenez, de faire sortir le peuple, d'aller affronter le pharaon et d'être le porte-parole et au nom de Dieu de dire, allez, il faut faire sortir mon peuple. Moïse, mes amis, il est bègue. Bègue, pour un porte-parole, il faut le faire quand même, hein. C'est pas fini, ça c'est l'Ancien Testament. Ah, vous voulez des Nouveaux Testaments ? Pas de problème. Dès le départ, mes amis, Jésus et les apôtres, ben, c'est pas une bande de winners, hein, les apôtres. Hein. C'est que des histoires entre eux. On se croirait dans un parti politique à la veille des primaires. Vous savez, c'est alors qui est le premier, qui est le plus fort, et toi, machin, et tout. C'est ça, hein. Saint-Pierre, mon saint patron, qui renie. Judas, qui trahit. Même, pardon, mesdames, même les femmes ne sont pas très à la hauteur, hein. On a les pleureuses de Jérusalem. Pardon, je suis filmé, j'ai oublié que je suis filmé. Donc ça va. On a Marthe, qui est l'activiste de service. Marie-Madeleine, dont on sait aujourd'hui qu'elle faisait le plus vieux métier du monde. Même Saint-Joseph, alors je suis revenu aux hommes, même Saint-Joseph, mes amis, faisait des péchés. Hein. Et combien la Sainte Vierge, Marie, a dû souffrir de cette médiocrité des apôtres, de cette médiocrité autour de Jésus. On l'aperçoit, mes amis, cette médiocrité, dans un passage d'évangile qui est peu connu. J'ai pris la référence parce que quand je la donne, personne ne me croit. Vous irez voir. Matthieu, chapitre 17, verset 17. Matthieu 17, 17. Facile. Écoutez bien. À un moment, Jésus dit ça. « Combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ?» Jésus qui dit ça à ses apôtres. En fait, il leur dit « Vous êtes des gros boulets !» Mais c'est vrai. Il n'a pas tort. Et pourtant, c'est avec ces gros boulets-là qu'il annonce la bonne nouvelle. Il n'a de cesse dans l'évangile que d'aimer ces gens-là, de les appeler. Même Saint-Pierre, le premier pape, qui a trahi, on aurait pu se dire, au lendemain de la résurrection, Saint-Pierre, allez, un peu mis de côté, puis Saint-Jean va être mis devant, Saint-Jean qui est resté le seul fidèle. Et tout le monde aurait compris d'ailleurs, ça aurait été normal. Ben non, 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 quand Jésus donne, c'est pour toujours. Il a dit que Pierre serait le chef, c'est Pierre. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Saint-Jean, mais non. Et il les envoie, ces hommes, tels qu'ils sont, fragiles, limités. Alors ma leçon, enfin de ce que je retire de ça, la leçon, elle est très claire. C'est que tous ces hommes de la Bible, soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament, deviennent des leaders du fait de leur fragilité. Vous voyez, comme si le véritable leadership de ces hommes et de ces femmes se construisait, non pas malgré la faille, malgré la faiblesse, malgré la fragilité, mais sur la faille, sur la fragilité, sur la faiblesse. Parce que la conscience de leur vulnérabilité, la conscience de leur faiblesse, permet à ces hommes et ces femmes d'entrer en relation avec Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, lui qui est le Tout-Amour. Et ça, c'est la clé de la sainteté dans la Bible. C'est même la clé de la sainteté tout court, hein. On ne peut se tenir debout que si on est conscient de ses failles, conscient de ses faiblesses. Il paraît que saint Philippe Néri, le grand apôtre de l'évangélisation à Rome, né au XVIIe siècle, il paraît que souvent il priait à voix haute. C'est sympa, comme ça on pouvait savoir ce qu'il disait. Et il disait, paraît-il, je ne sais pas comment on dit ça en italien, il disait « Seigneur, méfie-toi de Philippe ». C'était lui, hein ?« Méfie-toi de Philippe ». Ça pourrait être une prière qu'on pourrait tous dire. « Seigneur, méfie-toi de Pierre ». Alors du coup, je pose la question, et si la fragilité sauvait le monde ? J'ai envie de dire oui avec vous. Hein. Vous savez, parfois, on n'est pas là pour faire progresser quelqu'un, on est juste là pour être là avec lui. Il faut que je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée à l'hôpital. C'était il y a presque 2 ans, jour pour jour. Je me souviens très bien du week-end parce que c'était le week-end où il y avait un championnat mondial de golf. La Ryder Cup, on appelle ça. Peut-être que certains d'entre vous jouent au golf, ils savent de quoi je parle. C'est un championnat de golf où il y a les États-Unis contre le reste du monde. Ils adorent ce genre de match un peu binaire. Et c'était vraiment un week-end, c'était mon 8e week-end à l'hôpital. J'en pouvais plus, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Ce week-end-là, j'aurais dû être à Marseille pour marier un couple de jeunes gens que j'adore, que j'aime beaucoup et toujours encore aujourd'hui. Je n'ai pas pu y aller parce qu'évidemment, c'était impossible. Un de mes amis prêtres m'a remplacé au dernier moment. Et dans ma chambre d'hôpital, je recevais par message, vous savez, sur mon portable, des photos du mariage à Marseille, la mariée splendide, le temps bleu. Puis Marseille, c'est joli en été, hein, c'est magnifique. Les photos, enfin tout ça, la réception. Vous savez, moi, je déprimais. Alors, je regarde le golf, que j'assimile à un sport de vieux, pardon, excusez-moi. Et j'étais là et je me dis, mais ta vie est un échec. Tu as 45 ans. tu es là, tu es prête pour personne, tu devrais être à Marseille, tu ne sers à rien, tu regardes le golf. Puis vous savez, le week-end, pour nous les prêtres, c'est les 48 heures où on est à fond. C'est génial d'ailleurs. Le week-end, il commence souvent le vendredi soir et jusqu'au dimanche soir, c'est le tourbillon. Et on adore, on adore. Le dimanche soir, on est bien fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Pourquoi ? Parce qu'il y a la répétition d'enfants de cœur, les fiancés, toutes les messes du week-end, les rendez-vous, parce que, en fait, on est occupé quand vous, vous êtes disponible. Et inversement. Dites pas bon week-end à un prêtre, parce que c'est pas vrai. Dites-lui bon lundi, si vous voulez. Mais bon week-end, non, ça y va, nous. Hein. C'est comme si je vous disais bon lundi pour vous, ça va être bizarre, quoi. Ceux qui sont dans la vie active. Et donc, j'étais vraiment, vraiment, je peux vous le dire, vraiment, abattu. Et puis, dans mon lit, donc, machin, recevoir les photos, tout, enfin, vous voyez la scène, on frappe à la porte et entre une infirmière, les infirmières, elles viennent souvent, ceux d'entre vous qui sont allés à l'hôpital ou qui y vont encore, je le sais bien, les infirmières, elles viennent pour deux choses en général, dans la chambre, soit voir si tout va bien, soit vérifier la plomberie. La plomberie, c'est les fameux tuyaux partout, vous savez, avec le chariot à la perfusion, là. Donc, elle vient, et là, elle me dit, ça va, monsieur Amar ? J'ai dit, non. Et là, je fonds en larmes. Elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je dis, voilà, c'est ce que je vous dis là. Je suis 45 ans, je suis là comme un idiot, dans mon lit, je regarde le golf, mais ma vie, ce n'est pas ça, quoi. Et là, elle me dit, je ne suis pas croyante. Je dis, mais on s'en fout ! Et je pleure encore plus. Vous voyez, vraiment, vraiment au bout du bout, quoi. Et là, j'en souviendrai tout le temps. Elle me dit, je peux m'asseoir ? Alors je dis, oui, si vous voulez. C'est très rare qu'une infirmière s'assoie dans la chambre. Elle n'a pas le temps. Évidemment, elle va de chambre en chambre, de lit en lit. Elle fait des protocoles, la plomberie, les machins, etc. Alors je dis, oui, si vous voulez. J'étais un peu étonné. Elle me dit, je peux vous prendre la main ? Je dis, si vous voulez. Et là, vous allez rire, mais main dans la main, on a regardé le golf. C'est elle qu'il faut applaudir, c'est pas moi, hein. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, hein ? Elle avait compris, en fait, qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de me prendre la main. Elle, qui n'était pas croyante, elle avait juste compris qu'il fallait juste être là, au rendez-vous de ma fragilité, de ma détresse, me prendre la main et être là avec moi. Je ne sais pas combien de temps on a regardé, peut-être qu'il est resté quelques minutes, je ne sais pas. Mais évidemment, les larmes se sont calmées, le découragement aussi. C'est la première fois que j'ai été une femme de main dans la main. Mais c'était magnifique. Alors attendez, tenez-vous bien. Je vais à l'hôpital régulièrement pour des examens, des prélèvements. Bon, peu importe, ça va mieux, hein, vous voyez. Même si on fait attention. Je monte dans le service et je tombe face à face avec cette infirmière. Elle s'appelle Marion. Et je lui dis, Marion, le golf. Elle me regarde et me dit, mais quoi, le golf, machin, qu'est-ce que vous dites? Et bien, je dis, je lui raconte. Elle ne s'en souvenait pas. Vous vous rendez compte? Mais attendez, c'est encore plus beau qu'on imagine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était spontané, que c'était le geste qu'il fallait faire à ce moment-là, pour moi, qu'elle a senti qu'il fallait faire ça, pas me faire un grand discours ou un grand bouquin ou un grand traité, non, je peux prendre la main et rien dire. Je m'adresse à vous, il y a parmi, dans ce pèlerinage, beaucoup d'entre vous qui sont engagés, investis dans la pastorale de la santé. Souvent, on ne sait pas quoi faire. Moi aussi, comme prêtre, j'en ai vu des malades, vous savez, à l'hôpital. J'ai toujours été de l'autre côté du lit. Là, pour la première fois, j'étais dans le lit. Souvent, on est un peu démunis. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, dites rien. Faites comme Marion. Prenez la main. Restez là. La visite aux malades, souvent, 90%, le succès de cette visite, c'est juste ça, de venir. Moi, c'est ce qui m'a bouleversé avec mon évêque. Vous savez, quand on est prêtre, on parle souvent de son évêque. Il y a un proverbe qui dit « Quand deux ou trois prêtres sont rassemblés, l'évêque est là au milieu d'eux. » Et ce n'est pas forcément très positif comme présence, vous voyez ? Voilà. Et donc, comme tous les prêtres, j'ai dit du mal de mon évêque. Parce que quand ça va mal, c'est la faute de l'évêque, évidemment. C'est bien connu, c'est toujours la faute de l'évêque. Et bien, cet évêque, il est venu me voir toutes les semaines. Lui qui n'aime pas conduire, qui est vite fatigué, il est venu me voir toutes les semaines. Parfois, même un jour, je me souviens, il est venu et je me suis endormi pendant qu'il était là. Et je me suis réveillé, puis je ne savais plus trop s'il était vraiment venu ou pas. J'ai demandé à l'infirmière, je dis, mais L'évêque est venu, il dit, oui, il est reparti, il a vu que vous voulez vous reposer et tout. Il a horreur des embouteillages, il venait une heure de voiture aller, une heure de voiture retour. Ça m'a bouleversé. J'ai vu le cœur du père. J'avais vu le chef. Il m'avait des jours plus, puis des jours pas plus, ça vous avez bien compris. Mais j'ai vu le père, et ça m'a bouleversé. Et mon regard a complètement changé. Un jour même, il y avait papa, mon propre père, qui était là, et l'évêque. Et l'évêque a dit, ben voilà, nous sommes là les deux pères. Et papa, ça l'a bouleversé, il a pleuré. Puis après, il a fait un gros chèque au diocèse, donc l'évêque a tout gagné. L'évêque a tout gagné, le coquin, il a tout gagné. Le problème, il faut que je termine, 15h50, ah non, on a trois quarts d'heure, puis ensuite un quart d'heure de... Ça va ? Et où la sœur, elle n'est plus là ? Bon, elle est partie, elle a raison. Bon. 15h15, allez, on a jusqu'à 16h, c'est bon. Le problème, mes amis, c'est que ce que je vous dis là, ça paraît très beau. Mais d'abord, quand ce n'est pas vous qui souffrez, c'est assez facile. Mais quand on souffre, quand on a mal, c'est plus difficile. Et puis surtout, c'est à l'opposé du regard du monde. De ce monde qui nous demande toujours plus d'être dans le coup. Ce monde qui nous demande toujours d'être plus rentable, plus productif. Ce monde qui nous dit qu'il y a des forts et des faibles. Il y a un philosophe qui a théorisé ça. Et ça fait froid dans le dos, il faut absolument que je vous en parle. C'est Nietzsche. Nietzsche qui a dit, dans le monde, il y a des forts et des faibles, des locomotives et des wagons, des agneaux et des loups. Et Nietzsche, il dit, il vaut mieux être un loup, hein, sinon vous allez vous faire manger. Et Nietzsche, mes amis, au nom de notre foi chrétienne, il nous oblige à faire un choix. Le choix de la vie, d'abord. Dans un de ses livres, qui s'appelle « L'Antéchrist », je ne vous invite pas à le lire parce que c'est très violent. Écoutez bien, j'en cite un extrait. Nietzsche, il dit ceci. Écoutez bien. « Les faibles et les ratés doivent périr. C'est le premier principe de notre charité. On devrait les aider en cela. » Ça fait frémir, hein ? Ça nous rappelle des moments terribles et délirants, hein, de l'histoire européenne récente. Il faut choisir, mes amis. C'est soit le loup, soit l'agneau. Et entre les deux, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Et nous sommes appelés, nous les chrétiens, à réaffirmer avec toujours plus de force le principe même de notre foi, l'amour de la vie. Et voyez, ce que l'héroïsme chrétien sauvera, c'est ça. C'est d'abord la capacité d'aimer les plus faibles. Et Lourdes, pour ça, c'est un évangile à ciel ouvert. Cette année, on a tous une souffrance, on n'a pas pu emmener nos frères et sœurs malades. Ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois ne voient peut-être pas la différence, mais ceux d'entre nous qui viennent depuis plusieurs années à Lourdes savent bien, les malades, c'est les rois à Lourdes. On les met au premier rang, ils sont prioritaires, et c'est normal. C'est l'évangile, ça. Il faut retrouver, après avoir lu Nietzsche, le caractère sacré, radical de cet amour auquel nous sommes appelés, d'aimer les plus faibles, d'aimer les plus démunis, d'aimer les plus fragiles. C'est Manon qui regarde le golf avec moi. Mais c'est nous tous, mes amis. Quand on croise quelqu'un qui peine, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal, on ne peut pas faire, mais parfois juste être avec lui. Et puis, la deuxième chose que Nietzsche nous affirme, et nous impose en tout cas, c'est de revendiquer sereinement, positivement ce que nous sommes. Nous sommes des êtres faibles. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça crée entre nous des liens d'amour et de charité. Si je n'avais pas été faible ce jour-là, Marion n'aurait pas pu, elle qui n'est pas croyante, poser ce jour-là un acte d'éminente charité. Je suis sûr que ça lui sera compté au ciel. Je suis sûr. La vie n'est pas une activité dans laquelle il faudrait qu'on s'impose les uns aux autres, dans laquelle il y a des rapports d'hostilité. Non, la vie, c'est un don qui nous est fait et il nous reste à nous accueillir les uns les autres dans ce don. Accepter de nous reconnaître tels qu'on est. C'est une bonne nouvelle, finalement, mes amis, la faiblesse et la dépendance. Nous mourrons, nous vivrons d'abord et nous mourrons dans une dépendance totale. Et entre les deux, nous croyons être indépendants, mais ce n'est pas vrai. Et ça aussi, le confinement, et puis ensuite cette période singulière nous l'apprend. On est tous un peu solidaires les uns les autres. Les gestes des uns touchent les gestes des autres. Il y en a beaucoup, vous êtes beaucoup à me dire, mais moi, j'ai pas peur de mourir, le Covid, le machin. Ben oui, mais il y en a d'autres. Ben, que vous assumiez ça, mais les autres, on n'a pas le droit de de les menacer. On est intersolidaires. On n'est pas tous sur une île déserte, on vit ensemble, embarqués pour le voyage de la vie. C'est bien que cette période, je suis comme vous, j'espère qu'elle se terminera vite, mais c'est bien ce qu'elle nous révèle. Vous savez, souvent, c'est pour répondre à la question du début, quand j'ai dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi il a permis que je sois malade et pourquoi il a permis que je rende compte de ma vie en fait, tout a basculé en 48 heures. Hein. Je suis sûr que Dieu permet les épreuves, il ne les veut pas, il les permet toujours pour une purification, toujours. Et la question que je nous pose, c'est de quelle purification nous avons besoin en ce moment avec cette histoire de confinement et de précautions sanitaires. Quelle purification avons-nous besoin? On n'a peut-être pas la réponse aujourd'hui, mais on l'aura certainement un jour. Finalement, la fragilité, la souffrance, la faiblesse, c'est un appel à une présence. J'ai besoin de toi. Heureusement, mes amis, qu'il reste la faiblesse pour ça. Sinon, on serait des monstres d'égoïsme, des monstres de solitude, des monstres d'orgueil. La faiblesse et la fragilité nous obligent à dire à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous sont proches, tu sais, je ne vais pas très bien. Il y a une phrase que je ne veux plus entendre. C'est quand on vous dit bonjour, vous savez, on dit ça va. Puis tous on dit ouais, ça va. Mais non, mais mes amis, osons dire que ça ne va pas quand ça ne va pas. En vérité, non, ça ne va pas très bien, prie pour moi. Ce n'est pas le moment de raconter votre vie, hein, mais de dire non, en ce moment pas trop. Mais t'inquiète pas, je reprends, puis prie pour moi. Pourquoi on est obligé de se mentir les uns les autres? Moi, ça m'a joué des tours hein, à l'hôpital. Je serais avec beaucoup moins de reliques, là. je dis ça parce qu'on m'a enlevé beaucoup de choses, là. Si j'avais su très vite, le problème, c'est que j'ai été éduqué comme ça. Très vite, dire j'ai mal, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Le problème, c'est que j'ai été élevé un peu comme ça. Notre éducation chrétienne, la mienne en tout cas, un peu bourgeoise, un peu conservatrice. On m'a souvent appris qu'il ne fallait pas pleurer en public, qu'il ne fallait pas se plaindre, qu'il ne fallait pas déranger. C'est une erreur, mes amis. Je regarde l'heure. Il faut que je raconte cette histoire. J'ai subi 3 opérations. Et avant la deuxième, j'avais des nuits, mais d'une violence, grande douleur. Je me souviens d'une nuit où j'avais mal. Je ne disais rien. Je dis, allez, tant pis, c'est comme ça, t'es malade, tu offres à Jésus et tout. Enfin, ça ne marche pas toujours. Hein. Bon. Et à 2h du matin, la sonnette, je sonne. Ça, c'est le drame des malades. Je sonne ou je sonne pas? On n'ose pas trop. Ouais, mais l'infirmière, et puis la dernière fois, elle est déjà venue tout à l'heure pour me redresser mon oreiller, et puis tout à l'heure, c'était le volet, après, c'était le vase de nuit, et là, maintenant, est-ce que je vais l'appeler parce que j'ai mal? Bon, mais en fait, on a très mal, du coup, on appelle. J'appelle, c'est un infirmier, je me souviens très bien. Il me dit, ça va pas? Je dis, ah non, j'en dors plus, j'ai trop mal, c'est horrible et tout. Ça va pas quelque chose? Vous avez mal depuis combien de temps? Je dis, je sais pas, depuis 11h. Il était 2h du matin. Là, il me regarde, il me dit, vous vous croyez à l'hôtel? C'est violent, hein? Et je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il me dit, mais c'est ridicule, vous avez mal, vous appelez. Vous croyez quoi? Que je suis votre majordome? Je me souviendrai hein, de ça toute ma vie. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui a basculé. J'ai compris que mon devoir à moi, c'était d'être malade, et de faire le malade, et d'accepter qu'on me tende la main. Et que cet homme qui était payé pour ça, il n'y avait pas qu'un problème d'argent, vous avez bien senti, vienne témoigner pour moi une humanité. Ça a basculé ce jour-là, j'ai bien compris qu'il fallait que je dise, j'ai mal, je ne vais pas bien, oui, j'ai mal ici, j'ai mal là, là ça ne va pas trop bien, de dire, d'oser dire, ça ne va pas. Osons-nous dire, c'est humiliant, hein, parce qu'on aimerait bien être... droit dans nos bottes, la tête, non, la vraie vie, c'est pas ça. Et si vous avez la chance d'avoir un conjoint qui est encore vivant, qui est là, ou des proches, osons dire, mes amis, ça va pas très bien. Parce que ça se devine pas toujours. Et parfois, on est trop orgueilleux, trop fier pour oser le dire. Voilà, je termine, mes amis, avec des recettes qui m'ont aidé, qui peut-être pourraient vous aider aussi... si un jour vous expérimentez la souffrance, si vous la vivez déjà, évidemment, moi, ma foi chrétienne m'a énormément aidé. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord été hospitalisé en Italie. Et en Italie, on vit la laïcité de façon beaucoup plus sereine. Il y a des crucifix partout. Il y en a dans les pizzerias, mais il y en a aussi à l'hôpital. Et alors, l'hôpital, ça prend encore plus de sens. Et quand vous êtes, crucifié à votre lit, ce qui est le cas, avec des tubes partout, vous ne pouvez pas bouger, et qu'en face de vous, il y a un crucifix, vous vous dites, mais lui et moi, on est pareil. C'est une immense force. Et du coup, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi quand ils ont mal, parce qu'ils ont autant mal que nous. Hein. Mais quelle tristesse, ils doivent avoir encore plus mal. C'est la souffrance dans la souffrance. Ils doivent se sentir abandonnés. Et moi, d'avoir Jésus en face de moi, sur sa croix. Je lui dis, mais allez, toi et moi, on est là. Tu souffres avec moi. Ça m'a beaucoup aidé. La deuxième aussi, et je l'ai compris qu'après, parce que sur le coup, attention là aussi, ne le dites pas trop tôt. À ceux et celles d'entre vous qui souffrent et de votre entourage qui souffrent, ne le dites pas trop tôt, ça joue des tours. D'offrir ma souffrance. Alors c'est peut-être lié au sacerdoce, mais dans un deuxième temps, pas tout de suite, pas à l'hôpital tout de suite, mais je peux le dire que maintenant. C'est-à-dire, voilà Seigneur, cette souffrance que j'ai encore un peu aujourd'hui, je te l'offre, je te la donne. Avec ça, tu vas pouvoir sauver le monde. Elle s'associe à ta souffrance sur la croix. Mais attention mes amis, je ne l'ai pas dit à l'hôpital ça. Je le dis, vous voyez, que 2 ans après, c'est long. Hein. Offrez ce qui vous arrive. Offrez vos contrariétés. Offrez vos misères. Offrez votre péché aussi. C'est avec ça que Dieu va faire son royaume. C'est avec ça qu'il a sauvé le monde sur la croix. Offrez ce qui vous arrive. Voilà mes amis, le temps passe. Je termine par une petite béatitude qui n'est pas du tout dans l'évangile, c'est dans l'évangile selon Père Amar, mais ce n'est pas grave. Bienheureux les fêlés! Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Évidemment, évidemment, c'est par la faille, c'est par la fêlure que Dieu va passer en nous, que Dieu va faire briller sa puissance et son amour. Sortons! Vous savez, il y a un programme. Il y a un programme dans l'informatique qui s'appelle Photoshop. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui font de l'informatique. C'est un programme qui gomme un peu les rides, les kilos en trop, les cheveux blancs, les aspérités. Ben, il y a un syndrome Photoshop dans la vie chrétienne qui n'est pas bon. Non, non, assumons nos fragilités et nos misères. Confions-les au Seigneur. C'est avec ça qu'il fera son royaume et qu'il fera triompher sa gloire. Amen. Merci. Voilà, je suis pile dans les temps, on m'avait dit 3 quarts d'heure, il est 16h, vous avez vu comment on est fort, hein, on est très très bon. Hein. Je crois qu'on a un petit quart d'heure, c'est ça? Je sais pas, il y a une procession, je crois, à 16h30, ou une autre conférence, ou je ne sais pas. Alors dites-moi, oui, dites-moi un peu le programme. 16h30, il y a quelque chose, donc on a un petit quart d'heure, si vous voulez. Ceux d'entre vous qui veulent partir, n'hésitez pas. Chère madame, je m'approche de vous pour écouter votre question, puis je la reformulerai au micro, parce qu'il paraît que je n'ai pas le droit de donner le micro. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, bien sûr. Elle est plus grande. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Je vais dire. La dame me dit. Ouais. La dame me rejaillit sur le. Enfin, rebondit sur le témoignage en me disant c'est bien, il faut dire qu'on a mal, qu'on ne va pas bien, etc. Mais nous, en face, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais pas grand-chose. Peut-être juste être là. Je repense à cette fameuse Marion qui m'a juste pris la main. Cela dit, c'est vrai que la souffrance. Ah, comment vous dire ça? Je ris. Enfin, je ris, je tremble parce que si c'est filmé. Aïe, aïe, aïe. Non, non, mais je veux être sincère. J'ai eu un mal fou, je vous le dis, à gérer la détresse de mes parents. On a déjà perdu, nous, un petit frère que je n'ai pas connu, qui était le frère aîné. On est 4 dans la famille, mais on aurait pu être 5. Enfin, on est 5, mais le 5e est déjà parti au ciel. Et c'est atroce, je pense, pour des parents de voir partir leur enfant. Et moi, le spectacle de la souffrance de mes parents a été insoutenable. C'était vraiment... encore plus dur que d'avoir mal physiquement. À tel point, pardon, hein, que j'ai même dit au chirurgien que je ne voulais plus les voir. Il venait tous les jours me voir. Papa, il parlait à voix basse. Ça va, tu vas bien. Il prenait des photos. La dernière photo de Pierre, vous imaginez? C'était insoutenable. Maman disait rien, était mutique. Ça a été terrible. Et à un moment, je les ai écartés parce que c'était trop dur. Donc, vous voyez, voilà, je ne suis pas un héros, mes parents non plus. Aujourd'hui, on a pu s'échanger des choses en vérité. Si vous voulez lire dans le livre le témoignage de papa, c'est comme ça un peu qu'on a échangé des pardons. Il a pu témoigner dans le livre. C'est très bon pour mon humilité parce que quand je demande aux gens quelle est la page qu'ils préfèrent le plus dans le livre, c'est le témoignage de papa. C'est-à-dire les seules lignes que je n'ai pas écrites, donc c'est parfait. mais c'est vrai, ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire. Ils ont voulu. Maman était proactive, elle n'arrêtait pas et j'en pouvais plus de la voir s'agiter. Ça m'a beaucoup fait mal. Donc je crois qu'il n'y a peut-être rien à dire, juste à dire « je suis là ». Et le « je suis là », il y a 10 000 façons de le dire. Il y a juste les mots. Parfois, les mots ne sont peut-être pas nécessaires. Parce que, vous voyez, je suis souvent étonné dans la Bible, dans l'Évangile, lorsque Jésus rencontre un malade, il lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais à dire, mais ça crève les yeux, il est aveugle, il est lépreux, fait quelque chose. Non, Jésus a envie d'entendre le malade lui dire lui-même ce qui ne va pas. Mais peut-être il y a une clé là, et je réponds à votre question en disant cela, peut-être juste de dire au malade, faites-le, vous allez voir, vous serez surpris. Moi, dès que des proches de ma famille arrivaient, je leur disais, oh, tu ne veux pas baisser le store, tu ne veux pas redresser mon oreiller, tu ne veux pas faire ceci, faire cela, parce qu'en fait, je n'osais pas le demander aux infirmières. Donc mes proches, j'osais. Faites-le, dites-le, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Jésus pose dans l'Évangile, et s'il la pose, il y a certainement une raison. Pardon, je ne veux pas être trop long, si d'autres personnes veulent poser des questions, je m'approche pour les entendre. Ah, le Padre Blog, ah, c'est autre chose, ça, oui. C'est une aventure numérique de prêtres. On était 3 au début, ensuite allé jusqu'à 12, et puis là, depuis cet été, on a remodelé, on est 4. L'idée était de témoigner ensemble sur le continent numérique, Internet. On pense que c'est un lieu, que ce n'est pas juste un média, mais que c'est un endroit et qu'il faut y mettre la croix de Jésus-Christ et puis l'enseignement de l'Église. Donc on a essayé, c'était fondé par mon ami prêtre, toujours le même, l'abbé Grosjean. On est assez complices tous les deux et on a créé ça. C'est une aventure collective. On essaye d'avoir une parole de prêtre franche, direct, un peu réactive, sur l'actualité. Vous irez voir, ça s'appelle padreblog.fr. C'était la séquence pub, je suis désolé, les frères dominicains, là, quand vous verrez cette vidéo, ben on m'a demandé, moi je réponds, hein, mais le site des dominicains est très bien fait aussi, vous irez voir. Est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde l'heure, je ne vais pas nous mettre en retard, mais tout va bien, je crois. Il est 16h06. Oui, je vous en prie, allez-y.
Moi, je suis soignante, je suis infirmière, et dans mon métier, je n'avais jamais accompagné des gens en fin de vie. C'est vrai que j'avais ma maladresse lorsque je rentrais dans une chambre, et c'est trouvé que j'ai rencontré un jour, j'étais secrétaire de l'équipe de foot quand j'avais 20 ans, il y avait quelqu'un qui jouait au foot, qui avait un cancer, qui était très gravement malade, et j'allais le voir tous les jours, et on parlait du foot, on parlait de choses et d'autres. Et un beau jour, il me dit, ben, c'est fichu, quoi. Je sens que ben, ça va être terminé. Alors je lui dis, tu jettes l'éponge? Et il me répond, ben, si, le médecin m'a dit qu'on n'avait plus pour très longtemps. Et donc je lui dis, qu'est-ce que tu voudrais?
Je vais répéter ce que vous dites, oui.
Et donc il me dit, j'aimerais rencontrer tous ceux que j'aime et leur dire au revoir.
Ah oui. Trop beau. Alors, attendez, je vous coupe deux secondes pour ne pas oublier ce que vous allez dire. C'est plus un témoignage qu'une question, mais c'est très juste ce que vous dites, c'est très beau. Vous accompagnez des personnes, vous êtes infirmière, il vous est arrivé d'accompagner des personnes en fin de vie, notamment un jeune qui faisait du football, assez sportif, etc., qui disait, voilà, c'est foutu, et vous lui dites la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et il vous répond, j'ai envie de dire au revoir à tous ceux que j'aime. Et vous lui répondez, prends ton carnet d'adresse, donne des rendez-vous.
Ouais.
Trop beau.
Et sa famille m'a dit, mais on ne vous apprend pas.
Il a reçu donc tous ses amis, tous ses proches. Voilà. Et la famille a dit, on ne nous apprend pas à faire ça. Juste à aller voir ceux qu'on aime. Trop beau, merci à vous. Ah, ouais, ouais, ouais. Allez-y, je vous en prie.
Ben, moi, j'ai 57 ans et il y a 2 ans, j'ai accompagné ma maman. Les derniers jours, on l'a ramenée à la maison. Et ça a été 5 jours de bonheur. On savait qu'elle était à la maison pour partir et on l'a entourée, on lui tenait la main, on lui a dit « Maman, tu peux partir, on te laisse partir parce qu'on est prêt. » Et j'ai encore mal au cœur maintenant, mais j'ai vécu ces 5 jours de complicité,
trop beau.
De bonheur.
Alors je reformule pour ceux qui sont loin et qui ne vous entendent pas, vous avez eu la chance, c'est ça. Alors je dis au micro pour que tout le monde entende, vous avez eu la chance, entre guillemets, c'est drôle de prendre ce mot-là, mais c'est ce qui résume un peu ce que vous voulez dire, d'accompagner votre maman qui est morte chez vous après 5 jours d'une descente progressive vers la mort. Et en fait, finalement, vous dites, ça a été 5 jours de bonheur. C'est étonnant de le dire, hein. Et pourtant, votre maman vous manque, évidemment.
Ah oui, ben, hier matin, en entendant Reine du Rosaire,
bien sûr. Il faut, mes amis, réapprivoiser la mort. Elle fait partie de notre vie. Et nous ne pouvons pas, nous les chrétiens, les disciples de l'espérance, les disciples d'un homme qui est ressuscité le jour de Pâques, montrer un seul moment que nous tremblons face à la mort. Ce n'est pas possible, parce que nous savons la suite de l'histoire. Attention, hein, je distingue bien avoir peur de mourir et la peur de la mort. Peur de mourir, oui, bien sûr. Mais peur de la mort, ce n'est pas possible. Pour nous, les chrétiens, il y a vraiment un acte de foi et une foi qui doit grandir dans nos cœurs. Mais je dis, nous tous, hein, ce n'est pas possible, parce que nous savons la suite de l'histoire. Il y aura des retrouvailles, la mort n'aura pas le dernier mot. Donc il faut qu'on puisse le dire, et peut-être singulièrement, encore plus, en cette période-là. Je regarde le père, il est quelle heure, ça va, père? On peut encore poser une question ou deux? Une, il a dit, une. Attention. Allez, oui, je vous en prie. Après, on arrêtera, si vous voulez bien. Et puis moi, je reste, de toute façon, jusqu'à demain. Et puis, vous poserez des questions par Padre Blog, vous irez voir.
Comment réagissez-vous face aux personnes, aux enfants qui ne veulent pas voir leurs parents, leurs enfants morts?
Oui.
Donc, il ne s'agit pas de leur faire peur.
Oui.
J'ai du mal par rapport à ça.
Oui.
Et comment vous faire ça?
Oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je redis au micro, la question est très juste. Comment réagissez-vous face à ces parents qui ne veulent pas montrer à leurs enfants ou, ou aux petits un cadavre, quelqu'un qui est mort, c'est ça? Des enfants qui ne veulent pas. Ouais. Oui. Et même malade. Ah oh là là. Une bonne image de la personne qui est en bonne santé. Ah oh là là, comment vous dire ça? Bien sûr, chaque histoire familiale est différente, on a toutes des sensibilités différentes, c'est compliqué, on est au carrefour de l'éducation et puis de l'identité de chacun, de chacune. Moi, je me réjouis toujours qu'il y ait des enfants aux messes d'enterrement. Toujours. Et je félicite toujours les parents d'emmener leurs enfants aux messes d'enterrement, quand c'est possible, évidemment. Je leur dis, mais vous avez raison. Il faut lui apprendre dès maintenant que la mort fait partie de la vie et que la maladie, la souffrance, c'est notre lot à tous. Je me souviens un jour d'un grand-père qui était mort, la maman était là et le petit gamin il dit à sa maman « Mais qu'est-ce qu'il fait papy ?»« Ben, il dort », elle répond. « C'est pas bien, c'est un mensonge, il ne faut pas dire ça, il faut dire il est mort, il est dans le cœur de Dieu, on le reverra un jour, on n'est pas obligé de tout dire. » Mais il faut dire la vérité, ne cachons pas la faiblesse, et ne mentons pas en fait. Ce gamin, il va croire maintenant que dormir, c'est dangereux. Hein. C'est pas une bonne idée. Alors après, évidemment, je dis ça, mais c'est une règle générale. Je connais pas, moi, la sensibilité de nos enfants, leur psychologie. Moi, j'ai assisté un jour à un accident de voiture d'un chef scout qui est mort sur le coup. Vous savez, sa nuque s'est brisée. Je suis arrivé avant les pompiers, il était déjà mort. Pendant 2 ans, j'ai pas pu voir un seul film où il y avait de la violence ou quelqu'un qui meurt. Parce que ça m'a rappelé l'image de ce garçon. C'est compliqué, la psychologie. Donc, je n'ai pas de règle absolue, mais vraiment, je crois que notre espérance chrétienne, notre foi chrétienne, nous invite à ne pas cacher la mort et à en parler, y compris avec les plus jeunes, y compris avec les plus petits, sans tout leur dire. Mais ça, je fais confiance à votre talent et à votre vocation d'éducateur, vous les parents et les grands-parents, sans tout leur dire, mais en leur disant un peu ben que oui, grand-père est mort, ou que sa maladie va le conduire à la mort, et puis de rajouter la suite, l'espérance. On le reverra, on le retrouvera, heureusement. Hein. Allez, mes amis, je crois qu'il faut vraiment arrêter, ça s'appelle. Merci de nous rappeler l'Inquisition.